Et nous passons la parole à notre dernier intervenant, Peter Ditch, et ensuite il y aura donc la séance de questions. Peter Ditch est professeur au département de philosophie en philosophie politique et économique à l'Université de Montréal. Il est le directeur de l'axe éthique et économie au CREHOM et actuellement le directeur par intérim du CREHOM jusqu'au retour de Christine Tapolé. Alors ses intérêts portent directement sur la question de la redistribution. Et il travaille cette question autour de deux axes. D'abord en explorant la distribution du surplus coopératif entre les différents contributeurs au processus de production. Et puis il a un intérêt tout particulier pour le système fiscal, pour les questions de justice fiscale, en pensant le système fiscal comme le lieu social d'institutionnalisation de la redistribution. Et il a notamment récemment développé une réflexion sur la concurrence fiscale, comment les États jouent sur la fiscalité pour attirer des capitaux avec des effets évidemment sur l'égalité interne. Et donc je lui cède à présent la parole pour 12 minutes et pas plus.
Merci beaucoup Marc-Antoine, merci aussi d'avoir accepté de présider la séance. Je pense que tu le fais beaucoup mieux que moi j'aurais pu de le faire. Alors j'aimerais commencer avec un tout petit retour sur les deux textes qu'on trouve dans les ateliers de l'éthique dans l'axe éthique et économie. D'abord le texte de Marc Lobet sur lequel Laurent a déjà fait quelques commentaires. Alors cette anticipation d'un retour à un subjectivisme, à un welfarisme dans l'économie normative. Si Marc a raison avec cette anticipation, alors je crois qu'il y aura des grands débats entre les philosophes qui ont déjà critiqué des approches subjectivistes et welfaristes dans l'économie normative et qui à ce moment-là pourront réitérer et développer davantage leur critique. Le deuxième texte, celui de Wayne Norman. Alors ce que Wayne fait dans son texte, c'est d'encourager les éthiciens des affaires de faire un pont entre les théories fondamentales de justice et les décisions concrètes dans le monde du commerce. Hein, il appelle ça du mid-level theorizing, alors des théories qui nous permettent vraiment de traverser cet écart entre des réflexions de nature plus fondamentale et des questions pratiques. Alors ce que j'aimerais faire, c'est quelque chose de similaire à ce que Wayne fait dans cet article. J'aimerais nous encourager en tant que alors ceux qui travaillent à l'interface entre l'éthique et l'économie faire un virage institutionnel et pas dans le sens Rawlsien, mais dans un sens comme Pierre-Yves le disait, un institutionnalisme renouvelé si vous voulez. Hein? Et je vous présenterai mes raisons pour cet appel en utilisant un exemple. Cet exemple est contingent, j'aurais pu choisir un autre. Si on regarde les 10 dernières années et même plus dans les théories en éthique et économie, et vous vous posez la question, quelles ont été les contributions qui ont eu le plus d'influence sur le débat en justice économique? Alors, plausiblement, on pourrait dire que les théories libérales, égalitaristes de justice et leur position que toute inégalité non méritée devrait être compensée ont joué ce rôle dominant ou ont au moins eu une influence très importante. Et une question centrale de cette contribution est quel rôle devraient jouer nos talents naturels dans la distribution des revenus? Alors ceci est une question fascinante, mais jusqu'à quel point est-ce qu'elle est centrale à la justice économique aujourd'hui? Et là je vous propose l'analyse suivante. Si vous pensez que des talents différentiels ont en soi-même un rôle important à jouer pour expliquer les inégalités de revenus et de richesse aujourd'hui, alors à ce moment-là, cette question fascinante est en effet très pertinente au plan concret. Je ne pense pas que ces différences de talents expliquent une grande partie des inégalités que nous observons aujourd'hui. Je crois que ce sont les institutions socio-économiques qui traduisent et multiplient ces différences qui existent au niveau des caractéristiques individuelles, qui joue et qui devrait jouer dans nos explications des inégalités un rôle beaucoup plus important. Alors, quelle est la structure de notre marché de travail? Quelle est la structure de notre système éducatif? Quelle est la structure de nos entreprises? Comment est-ce que ça se fait qu'il y a 50 ans, on avait le même différentiel de talent au niveau individuel, mais on avait des inégalités de revenus beaucoup moins importantes qu'aujourd'hui? Les travaux sur la justice économique des dernières décennies, à mon avis, n'ont pas traité suffisamment ces questions-là. Et notez que ceci n'a pas toujours été le cas, hein, si on remonte même à Adam Smith. Hein, si lui, il lisait les libéraux égalitaristes aujourd'hui, avec leur emphase sur des facteurs individuels, alors il leur dirait qu'ils vont dans la mauvaise direction. Hein. Pour lui, ce qui expliquait les inégalités dans la société, c'était la manière dans laquelle on l'organise. Alors la division du travail fait en sorte qu'il y a une spécialisation et il y a un surplus qui est généré. Alors ce sont nos institutions socio-économiques qui gèrent la distribution de ce surplus. Laissez-moi vous donner une idée plus précise des institutions que j'ai en tête et sur lesquelles, à mon avis, les gens qui travaillent sur la justice économique devraient se prononcer dans les 10, mais aussi les dix prochaines années et par la suite. Alors, un exemple, la politique monétaire actuelle aux États-Unis et en Europe. En Europe, il y a la Banque Centrale Européenne qui achète des obligations de l'Espagne et de l'Italie. Quels sont les impacts sur la distribution de richesses dans ces pays-là? Les économistes n'ont pas de questions à nous donner pour l'instant, ils devraient l'avoir. Nous aussi, on devrait réfléchir à ces questions. Même chose avec ce qu'on appelle le quantitative easing pratiqué par la Federal Reserve aux États-Unis. Alors, ces politiques sont une réponse à une crise, mais quelles ont été les causes de la crise? Le manque de régulation du marché immobilier. On pourrait poser des questions parallèles à la question de la régulation des marchés, des dérivatives, des marchés financiers. Tout ça, ce sont des questions, à mon avis, sur lesquelles les gens qui travaillent sur la justice économique devraient avoir quelque chose à dire. Et certains pourraient suggérer que, au plan international, ces questions sont encore plus importantes qu'à un niveau domestique. Hein. Alors ici, je vais juste identifier deux niveaux différents. D'abord, les institutions existantes déjà, hein, les institutions internationales comme le FMI, la Banque mondiale, l'OMC. Ces organisations-là, quelles sont leurs justifications normatives de leur fonctionnement et comment est-ce qu'on peut évaluer leur politique, hein? Il y a un vide à remplir par des gens qui travaillent sur la justice économique. Et par ailleurs, des pratiques économiques qui ne sont pas régulées, qui ne tombent pas sous le mandat d'une organisation existante, mais qui ont des répercussions importantes à la fois au niveau domestique et au niveau international. Alors prenons un exemple récent, l'établissement de zones de commerce libre dans des pays de développement. Hein, au Honduras, actuellement, on est en train de créer une zone de commerce libre. Alors, je connais pas les détails du propos, mais l'idée, c'est vraiment qu'il y a des lois différentes de l'État de Honduras. Ces lois sont formulées par, en grande partie, des entreprises multinationales qui ont un intérêt à s'installer dans cette zone-là, et le tout est défendu en disant « mais les gens, les citoyens de l'Honduras ont le choix de s'y installer ou non hein? ». Alors ceci, évidemment, n'est pas satisfaisant comme justification pour un tel modèle. Je vais être relativement bref parce qu'on est tard en après-midi, mais à mon avis, ça, c'est le genre de questions sur lequel les gens qui travaillent en justice économique devraient se prononcer davantage dans l'avenir. Ça ne veut pas dire que les questions plus abstraites, alors j'ai commencé avec la question sur les talents, ne devraient pas être traitées. Mais il faut, pour revenir à ce matin, il faut se salir les mains un peu plus avec des questions en pratique et des institutions concrètes qui gouvernent notre fonctionnement économique. Merci.
Ben,